à Rencontre spirituelle aujourd'hui, en ce 21 novembre. C'est la fête de la présentation de Marie au Temple. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Je vais vous expliquer ça en détail assez rapidement tout à l'heure. Et puis, sachons que ça vient des évangiles apocryphes, particulièrement du protévangile de Jacques. Mais c'est une belle tradition dans l'Église parce que ça nous rappelle que nous devons nous-mêmes, tous, nous consacrer à Dieu comme elle a été consacrée par ses parents, consacrée au temple à rendre service aux offices qui se déroulaient dans le temple juif de son époque à Jérusalem. Au microphone, Raymond Beaugrand-Champagne. Il y a une très belle symbolique à tirer de cette fête. C'est une belle fête. Peu nous importe que ce soit vrai ou pas vrai, c'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est le sens. De toute façon, dans tout ce que l'on raconte, que ce soit vrai ou non vrai, ou un mythe ou un conte, ce qui compte dans la vie, c'est l'instant présent, ce qu'on fait avec ça, dans nos vies, pour être plus heureux. Les parents religieux, on le sait, très souvent, ils consacrent leurs enfants au Seigneur, avant même leur naissance, et aussi après leur naissance. Je me souviens que nous avions prié très intensément sur ma belle-fille pour que notre petit garçon qui s'en venait, petit Pascal, qui a eu 12 ans ces jours-ci, soit vraiment sous l'emprise de l'Esprit-Saint. Et nous avons aussi prié après sa naissance, plusieurs d'entre nous. Et c'est ce qu'il faut faire, je crois. Et parmi les Juifs, on ne se contentait pas toujours de cette consécration générale. Quelques-uns des Juifs offraient même leurs enfants à Dieu lorsqu'ils étaient nés. Ça s'est perpétué dans le catholicisme. Beaucoup d'enfants, dès l'âge de 5 ans, étaient consacrés à la vie monastique. Ça nous semble aujourd'hui complètement invraisemblable. Ils sont sortis de ces âmes d'élite, de ces enfants comme Sainte Gertrude, des grands mystiques, de grands saints dans l'histoire de l'Église. Alors ces enfants, au temps des Juifs, au temps de Marie, de ses parents, Joachim et Anne, logeaient dans les bâtiments qui dépendaient du temple. Ils servaient les prêtres, les lévites, dans les fonctions de leur ministère. On a un exemple de cette consécration spéciale dans la personne de Samuel et de quelques autres juifs dans la Bible. Il y avait aussi des appartements pour les femmes qui se dévouaient au service divin dans les temples. Par exemple, il est question d'Anne, fille de Phanuel. Ça, c'est dans Saint-Luc, vous pouvez le vérifier, chapitre 2, les versets 36 et 37. Saint-Luc, chapitre 2, 36 et 37, vous voyez qu'il y a des traces de ça. Bon, c'est une ancienne tradition que la Sainte Vierge, dans son enfance, a été comme ça, solennellement offerte à Dieu dans le temple. C'est dans, je vous ai dit, dans notre protévangile de Jacques, je le lis ici, je vous en lis un bref passage. Lorsque la petite fille eut 3 ans, Joachim, son père, dit appeler les filles d'Hébreu de race pure, et qu'elles prennent chacune un flambeau qui ne s'éteindra pas. L'enfant ne devra pas retourner en arrière, et son cœur ne se fixera pas hors du temple du Seigneur. Alors elles obéirent à cet ordre et elles montèrent ensemble au temple du Seigneur. Et le prêtre accueillit l'enfant, Marie, il l'a pris dans ses bras, il l'a béni en disant, « Il a glorifié ton nom, le Seigneur, dans toutes les générations. » On retrouve là le Magnificat au fond, le chant de la Vierge qu'on a dans Saint-Luc, quand elle rencontre sa cousine Élisabeth. Je vous en ai parlé il n'y a pas longtemps. Et le prêtre continue en disant, « C'est en toi qu'au dernier jour, il révélera la rédemption qu'il accorde aux fils d'Israël. » Et dans le protévangile de Jacques, on continue, il dit, « Il fit asseoir l'enfant sur le 3e degré de l'autel. Et le Seigneur Dieu fit descendre sa grâce sur elle, et debout sur ses pieds, elle se mit à danser. » C'est sympathique, hein? « Et elle fut chère à toute la maison d'Israël. » Et là, les parents redescendirent du temple. Ils étaient remplis d'admiration. Et ils louaient Dieu, et l'enfant ne s'était pas retourné en arrière. Et Marie demeurait dans le temple du Seigneur, semblable à une colombe. et la main d'un ange la nourrissait. Oh, la main d'un ange la nourrissait. Eh oui. C'est charmant, ces choses-là. J'aime bien lire ça. Toujours en appliquant ça autrement, hein, en interprétant. Donc, c'est une ancienne tradition que la Sainte Vierge, dans son enfance, je vous ai dit, était solennellement offerte à Dieu dans le temple. C'est ce qui a donné naissance, donc, à la fête qu'on célèbre aujourd'hui, la présentation de Marie au temple. On l'appelle présentation, les Grecs lui donnent un autre nom. C'est l'entrée de la Sainte Vierge dans le temple. Il y a de très belles icônes de cela, hein, de très très belles icônes. Il en est fait mention, d'ailleurs, dans les plus anciens martyrologes. Bon, je passe outre bien des détails. On peut facilement imaginer dans quel esprit, hein, la jeune Marie a fait cette offrande d'elle-même à Dieu. Elle est vraisemblablement consacrée au fond de son cœur d'une manière si pure et si éminente que jamais, il me semble, ni ange ni homme ne s'est dédié à Dieu avec tant de pureté puis tant d'amour, au fond. Hein, on peut penser ça. On peut aussi imaginer que les anges, en la voyant monter courageusement les degrés du temple et approcher du sanctuaire avec une espèce de sérieux, de gravité, puis une grande modestie, puis une grande ferveur aussi, eh bien, les anges ont dû l'accompagner. D'ailleurs, on voit cette scène peinte, c'est immense, dans l'abside, le cœur du grand séminaire de Montréal sur la rue Sherbrooke. Au 2065 West rue Sherbrooke, pouvait aller visiter et particulièrement aller à la messe le dimanche à 10h30. Il y a une messe ouverte au public, là, à 10h30, le dimanche matin au Grand Séminaire. Et vous verrez dans le fond du cœur en haut, là, tout illuminé, la Sainte Vierge qui monte les degrés du temple, elle est présentée au temple. C'est une très belle chapelle, hein? Et ça vous occasionnera peut-être une bonne idée, celle de prier pour les vocations des prêtres séculiers. Dieu qu'on en a besoin, hein? Alors, lors de cette cérémonie, Marie s'est séparée de ce qu'elle avait, évidemment, de plus cher sur la terre, son père et sa mère. Et ça, pour obéir à la voix de Dieu. On peut imaginer qu'elle a l'air d'oublier la maison de son père, mais je suis sûr que dans son cœur, elle devait penser à son père et à sa mère, et toute jeune, c'est une enfant. Et Joachim et Anne, de leur part, donnent à Dieu ce qu'ils ont de plus précieux. Et qui vaut certainement plus que tous les trésors du monde, c'est Marie. Marie. On voit alors dans le temple la plus remarquable offrande qui n'a été jamais offerte à Dieu, au fond, quand on y pense. Et elle y faisait... Qu'est-ce qu'on pourrait imaginer qu'elle faisait, cette toute jeune vierge, durant les 12 ans qu'elle y est demeurée enfermée environ? On calcule que de 3 ans à 15 ans, elle est restée là. D'après la tradition, toujours, je vous dis, hein? Alors, on pourrait dire en 4 mots qu'elle s'y est comportée tout simplement comme une humble servante dévouée au service de Dieu, de son Seigneur. Comme une jeune disciple intelligente, appliquée aux leçons de son maître. Comme une véritable jeune épouse fidèle. Hein? Les gens avaient des jeunes épouses. Mon grand-père a épousé une fille de 16 ans. Moi. Et elle s'offrait à Dieu, tout simplement. Elle disait sans cesse ce qu'elle a dit depuis avec tant de bonheur. « Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon votre parole. » Et c'est dans ce sentiment qu'elle était sans doute la première à se rendre au travail, la plus fervente, on imagine, à remplir les différentes tâches dans le temple, les tâches qui s'étaient réservées à ses jeunes enfants. Sans doute aussi était-elle la plus obéissante, hein? Oh mon Dieu, les gens n'aiment pas ça quand on parle d'obéissance, mais c'était sans doute la plus obéissante dans la joie au prêtre, la plus humble dans la considération de cette merveilleuse et fantastique présence de Dieu dans le temple. Il y a un prêtre de Constantinople, Épiphane, qui pense que Marie y a appris la langue hébraïque afin de pouvoir lire les livres sacrés. C'est vraisemblable, hein? Parce que c'était écrit dans cette langue. Et on lui a montré aussi à travailler la laine, le fil, la soie et l'or afin de fabriquer puis d'enrichir les ornements sacerdotaux, hein? Comme tant de religieuses l'ont fait au cours de l'histoire du christianisme. Tant de religieuses catholiques et orthodoxes qui ont fait ça. C'est fantastique quand on y pense. Dans la lecture du bréviaire aujourd'hui, il y a des beaux textes de Saint Augustin. C'est beau! Faites attention, dit Saint-Augustin, je vous en supplie, à ce que dit le Christ Seigneur, étendant la main vers ses disciples, « Voici ma mère et mes frères. » Et ensuite, Jésus ajoute, « Celui qui fait la volonté de mon Père, qui m'a envoyé, c'est lui, mon frère, ma sœur, ma mère. » Est-ce que la Vierge Marie, dit Saint-Augustin, n'a pas fait la volonté du Père, elle qui a cru par la foi, qui a conçu par la foi, qui a été élue pour que le salut naisse d'elle en notre faveur, qui a été créée dans le Christ avant que le Christ fût créé en elle? Sainte Marie a fait, oui, elle a fait la volonté du Père et par conséquent, il est plus important pour Marie d'avoir été disciple du Christ que d'avoir été mère du Christ. Je répète, hein? Il est plus important pour Marie d'avoir été disciple du Christ que d'avoir été mère du Christ. C'est Saint Augustin qui dit ça, je vous le rappelle. Il ajoute, il a été plus avantageux pour elle d'avoir été disciple du Christ que d'avoir été sa mère. Il répète. Hein? Donc, Marie était bien heureuse parce que, avant même d'enfanter le Maître, elle l'a porté dans son sein. Il ajoute des choses magnifiques. C'est beau, Saint-Augustin. Hein? Voyez si ce que je dis n'est pas vrai. Comme le Seigneur passait, suivi par les foules et accomplissant des miracles divins, une femme se mit à dire... « Heureux, bienheureux, le Saint qui t'a porté !» Et saint Augustin pose la question, « Qu'est-ce que le Seigneur a répliqué pour éviter qu'on ne place le bonheur dans la chair ?» Il a répondu, « Heureux plutôt ceux qui entendent la parole de Dieu et la gardent. » La mettent en pratique, si vous voulez. Saint Augustin ajoute donc, « Marie est bienheureuse aussi parce qu'elle a entendu la parole de Dieu et l'a gardée. Son âme a gardé la vérité plus que son sein n'a gardé la chair de Jésus. » La vérité, ajoute-t-il, c'est le Christ. La chair, c'est le Christ. La vérité, c'est le Christ dans l'âme de Marie et la chair, c'est le Christ dans le sein de Marie. Ce qui est dans l'âme est davantage que ce qui est dans le sein. Il termine en disant, Sainte Marie, heureuse Marie. Et pourtant, l'Église vaut mieux que la Vierge Marie. L'Église vaut mieux que la Vierge Marie? Alors, on peut se poser la question, et lui-même la pose, il dit, pourquoi? Parce que Marie est une partie de l'Église, un membre éminent, un membre supérieur aux autres, mais enfin un membre du corps entier. S'il s'agit, dit saint Augustin, du corps entier, le corps est certainement davantage qu'un seul membre. Le Seigneur est la tête, et le Christ total est à la fois la tête et le corps. Bref, nous avons un chef divin, nous avons Dieu pour tête. Que c'est beau, Saint-Augustin, que c'est beau. Je vous ai dit, je vous ai promis, il y a quelques jours, de vous parler de grands miracles à Lourdes en l'honneur de la Sainte Vierge, dont c'est la fête aujourd'hui, la présentation de Marie au Temple. Deux miracles. On sait que Émile Zola n'a pas été le seul à s'attaquer au miracle de Lourdes au siècle dernier. Lourdes, ça date déjà de plus de 100 ans, près de 150 ans. D'autres, et de plus savants que lui, en matière musicale justement, ont réfuté la réalité des guérisons ou des améliorations spectaculaires et inexplicables qui sont enregistrées au bureau des constatations à Lourdes. Vous savez qu'il y a un bureau de constatation des miracles à Lourdes, où sont là des médecins de différentes religions, ou même des athées ou des agnostiques, qui analysent ces phénomènes absolument exceptionnels. Ou à peu près exceptionnels. On n'en voit pas autant dans le monde, je pense. La publicité involontaire faite par le grand écrivain socialiste... aux guérisons de Marie le Branchu et Marie le Marchand, a pendant quelques années éclipsé les autres miracles de Lourdes. Il se trouva par la suite bon nombre d'autres auteurs pour répondre. Il y a eu les attaques violentes dont fut l'objet pendant toute sa vie un certain Gabriel Garcam, je vais vous en parler, qui a été miraculé, lui, le 20 août 1901. Le docteur Vachet lui a consacré même un livre, d'une parfaite mauvaise foi d'ailleurs. Il a raconté que c'était de l'hystérie. Marcel Boll, un maître en Sorbonne, n'a pas hésité de son côté à parler de simulation et d'hypocrisie. C'est pourquoi l'étude du dossier de ce M. Garcam est particulièrement captivante. Sa lecture fait évidemment penser irrésistiblement à celle d'un conte de fées, vous allez voir. Devant la profusion puis la solidité des témoignages, les certificats médicaux, et ces derniers précisément établis par des docteurs de compagnies d'assurance dont on connaît la sévérité, hein, les assureurs, puis la partialité aussi, mais on voit mal comment des esprits qui se disent éclairés sur un peu tout, là, ont pu conclure aussi légèrement à l'hystérie et à la simulation. On a de ces journalistes à Montréal qui concluent n'importe quoi à la suite de phénomènes ou de choses vraies, parce qu'ils ne veulent pas entendre. Ben écoutez bien ça. Gabriel Garcam avait été terriblement blessé dans un accident de chemin de fer. Le choc avait été très violent. Les débris des wagons jonchaient la voie ferrée sur une centaine de mètres. C'était le rapide Bordeaux-Paris qui venait d'être tamponné dans la nuit du 18 décembre 1899. Donc, ça va faire 100 ans très bientôt, par une machine qu'on appelle haut le pied, lancé sur comme un bolide aveugle sur les rails de la pente qu'on appelle la pente de Nivernais. Et le fourgon postal, déchiqueté par la locomotive, avait éclaté comme une boîte d'allumettes. C'est en vain que les sauveteurs, enfonçant dans la neige jusqu'aux hanches, avaient recherché le corps du malheureux facteur ambulant. Parce que ce fourgon postal, il y avait ce facteur Garcam à bord. Et au petit jour, pourtant, on l'a découvert. À 18 mètres du ballast, comme on dit. Inconscient, tout raidi et bleui par le froid. Vous vous imaginez. Alors un médecin se penche sur lui et tâte son pouls. Le médecin dit, c'est un vrai miracle, il vit encore. Il est transporté d'urgence à l'hôpital, mais Gabriel Garcam, j'appelle son nom, G-A-R-G-A-M, comme dans Montréal. Il est revenu à lui très tard dans la soirée, il se souvenait de rien, il est sorti de sa torpeur en gémissant, son épaule avait été broyée, les os de son crâne étaient à vif et de très nombreux éclats de bois avaient entaillé profondément sa peau, ses chairs. Le pauvre blessé avait perdu son sang en abondance, mais fort heureusement, le contact de la neige, ça avait fini par enrayer l'hémorragie. On peut dire que c'est ça qui l'a sauvé. Il a fallu, pendant des heures d'un travail épuisant, le chirurgien, pour arracher aux jambes meurtries toutes les échardes qui s'y étaient plantées. On peut imaginer la convalescence de ce jeune homme. C'était toutefois assez rapide. Les plaies, bien que refermées, faisaient de temps à autre échapper encore quelques fragments d'os. Ça aurait été rien, ceci, la rigidité des membres inférieurs, des jambes que Gabriel avait ressenties au lendemain du choc était allée en s'accentuant. Alors, en fait, à 27 ans, Gabriel Garcam était bel et bien paralysé depuis la ceinture jusqu'à l'extrémité des orteils. Et là, les médecins ont été obligés d'avouer à la famille qu'il fallait conserver très peu d'espoir de le revoir. Non. Il ne pouvait pas survivre à ses blessures, c'était impensable d'après eux. Cette rigidité n'était que la première manifestation visible, donc, des désordres internes que la collision puis le séjour dans sa prison de neige allait entraîner. Et de semaine en semaine, bien, Gabriel Garcam glisse vers la tombe. Son corps avait cruellement souffert, son moral aussi. Alors il a refusé bientôt toute nourriture, qu'il était d'ailleurs incapable d'assimiler, hein. C'est à grand-peine qu'il supportera, vers la fin, là, une sonde alimentaire avec laquelle on le nourrissait toutes les 24 heures. En 20 mois, cet employé des postes a perdu près de 50 kilos. Vous savez ce que c'est, hein? Plus de 100 livres. Pendant ce temps, la compagnie des chemins de fer d'Orléans a été citée devant le tribunal d'Angoulême. Et sa responsabilité a été établie. Elle s'est vue condamnée le 10 février 1901, donc 2 ans plus tard, à verser, comme il est écrit dans les attendus du jugement, j'ouvre les guillemets, à cette épave humaine dans laquelle l'intelligence seule n'a pas été atteinte. Fermez les guillemets. Alors on condamne à la somme de 60 000 francs or à titre de dommages-intérêts puis une pension annuelle de 6 000 francs or. Cette espèce d'attendu là du jugement d'Angoulême est extrêmement intéressant, hein, si l'on considère que le mal de Gabriel Garcam aurait pu être psychosomatique, ou plus simplement d'origine émotionnelle. Mais en effet, Gabriel Garcam apparaît à ceux qui l'entourent comme également atteint dans sa chair et dans son âme. Ceux qui, plus tard, crieront à l'assimilation ou à l'hystérie consécutive à un traumatisme crânien, n'ont certainement pas eu entre les mains les rapports des experts puis des contre-experts qui ont discuté du cas Garkham avant le premier procès. Les uns, les autres, sont unanimes, oui, unanimes, à reconnaître que seule l'intelligence n'a pas été atteinte. Un très grand blessé, comme vous voyez. Si le doute avait seulement pu germer dans l'esprit d'un seul de ces experts, mais il est évident que les sommes versées à l'infirme n'auraient pas été aussi considérables, hein? Alors il est patent que les experts, cités tant par la partie civile que par la défense, admettent que l'état de ce jeune Garkham est tout simplement désespéré. Je cite le docteur De Cressac, chirurgien en chef de l'hôpital d'Angoulême, également commis aux fins d'expertise, n'a pas hésité, lui, à déclarer à deux reprises en décembre 1900, puis en juin 1901, c'est en deux lignes, « Garkham souffre d'une infirmité permanente capable d'évoluer progressivement et fatalement. » Et cette issue fatale ne fait d'ailleurs plus de doute. Hein, le 3 juillet 1901, date à laquelle se rappelle la Compagnie des chemins de fer d'Orléans demandant que soit reconsidéré le montant de la pension, et la Cour d'appel de Bordeaux aggrave encore considérablement le jugement du tribunal d'Angoulême. Mais là, quelques jours plus tard, en effet, Gabriel Garkham, un véritable squelette, qui n'a pas quitté son lit depuis 20 mois, doit subir la trépanation d'une vertèbre. Et là, le docteur Texier, je donne les noms parce que c'est pour montrer que c'est sérieux, et le docteur Texier de l'hôpital d'Angoulême en informe la famille, qui prend alors sur elle d'enlever son fils de l'hôpital et de tenter l'impossible. Tenter l'impossible? Oui, tenter l'impossible pour épargner à Gabriel cette dernière épreuve dont il n'a, à vrai dire, que très peu de chances de réchapper. Là, la mère de Gabriel Garkham a secrètement décidé d'envoyer son fils à Lourdes. Ça prend bien une mère catholique pour penser à ça, hein? Ce que la médecine ne peut, se dit-elle, la Vierge de Lourdes en est peut-être capable. Et le malade l'entend pas, lui. Tout d'abord, il veut pas y aller, il appréhende le voyage jusque dans les Pyrénées, hein, c'est pas à la porte. Et sa foi, ben, dans l'eau de la petite Bernadette, est pas très très vibrante. Il va se laisser fléchir, il va se rendre compte qu'il agit davantage en désespéré qu'en croyant, hein. Et mes jours sont comptés, dira-t-il à ses amis, là ou ailleurs, qu'importe. Si la mort, à Lourdes, devait laisser espérer à ma vieille maman, que j'y suis mort en bon chrétien, ce lui serait une telle consolation. Je vous ai dit que Gabriel Garkham a décidé de partir pour Lourdes sans espérer de guérison. Et le 19 août 1901, on hisse donc son brancard dans le train du pèlerinage. C'est le père Joseph Belnet, qui l'a bien connu, qui dit « Son corps n'est qu'une plaie navrante ». La gangrène s'est installée à toutes les extrémités, j'insiste. Oui, la gangrène s'est installée à toutes les extrémités. Il n'a pratiquement plus de fibres musculaires. Le voyage est pénible pour cet homme qui se meurt, qui n'a même pas conscience, d'après certains témoins, de ce qu'il fait ni de l'endroit où il se trouve. Et arrivé à Lourdes, pourtant, il a encore la force, comme on a témoigné, j'ouvre les guillemets, pour mourir en bon chrétien et faire plaisir à sa mère. C'est comme il l'a dit et les gens le répètent. Et il a la force de demander que son brancard soit transporté à la grotte, là où la Vierge est apparue, au milieu du siècle dernier, à Sainte Bernadette Soubirous. Vous savez que Lourdes est l'un des plus grands pèlerinages mondiaux. Il se confesse, il communie à la grotte même. Il n'est pas tellement croyant, comme vous voyez. Il n'y a pas tellement d'espoir. Mais quand même, il se confesse et il communie. Il faut bien commencer par le commencement. À 16h, il est parmi les malades, allongé devant la basilique. Et le Saint-Sacrement passe et le bénit avec toute la foule. Son brancardier le voit tout à coup défaillir et blêmir. Il se raidit dans un dernier sursaut. Il s'approche de la mère de Gabriel et lui chuchote « Madame, madame, votre fils se meurt. Nous devrions l'emporter à l'hôtel. » Et la pauvre femme supplie « Non, laissez-le de grâce. Je mettrai mon mouchoir sur son visage et personne ne verra qu'il est mort. Alors le Saint-Sacrement est passé, et soudain, le moribond s'agite. Gabriel Garcam s'agrippe au montant du brancard. Il fait un effort désespéré. Il se dresse sur son séant, et ses jambes, paralysées depuis 20 mois, se meuvent lentement et se détendent. Le brancardier et Madame Garcam assistent alors, ainsi que des milliers de témoins, au spectacle inoubliable et presque effrayant. Gabriel a posé un pied à terre, puis l'autre. Ça rappelle la scène de la résurrection de Lazare dans l'Évangile. Ses pieds sont nus, les orteils se contractent et le mourant se dresse sur ses jambes, avance un pied, puis l'autre, et en chemise se met à marcher comme dans un rêve à la suite du Saint-Sacrement. À la suite du Saint-Sacrement, vous qui ne croyez pas à la présence réelle, réveillez-vous. Et il prononce quelques paroles inintelligibles. Sa première prière de remerciement va à celle qui a obtenu sa guérison, à Marie. Car il est guéri. Un quart d'heure plus tard, 63 médecins rassemblés au bureau médical ne peuvent que constater et enregistrer la guérison soudaine et complète de cette paralysie incurable et de toutes les plaies gangrénées de Gabriel Garcam. Un quart d'heure. En quelques instants, non seulement le moribond, qui n'a pourtant plus de muscles, a retrouvé l'usage de ses jambes, mais encore un épiderme tout neuf. Oui, un épiderme tout neuf a repoussé la gangrène et recouvert les plaies béantes et purulentes. Est-ce que vous entendez? Entendez-vous? Gabriel Garcam est guéri. Il ne connaîtra même pas de convalescence. Rentré chez lui, il mange avec appétit et retrouve son poids normal en l'espace de quelques semaines. Il ne tarde pas à reprendre le travail et abandonner toute prétention sur sa pension d'invalide permanent. Une vie nouvelle s'ouvre à lui. Il a 28 ans. Il est en possession de tous ses moyens. Mais chaque année, cela pendant 53 ans. 53 ans, il se rendra à Lourdes lors du pèlerinage national de France, où il servira comme brancardier bénévole. Êtes-vous déjà à Lourdes voir ça? C'est tellement émouvant. Il devient l'un des personnages les plus populaires de ces lieux saints que sont les lieux de Lourdes, à l'intérieur de la clôture. Je ne parle pas des lieux en dehors où l'on vend toutes sortes de choses. Ce sont des commerçants privés. N'importe qui peut vendre là, même des incroyants, des juifs, des musulmans, n'importe qui. Et là, il est l'un de ceux que l'on montre du doigt, et que les malades qui attendent dévorent des yeux pour y puiser de nouvelles raisons d'espérer. Il aurait voulu demeurer anonyme, mais bientôt, il est si violemment pris à partie par les ennemis de Lourdes et des Miracles qu'il doit sortir du rang, avec beaucoup de répugnance d'ailleurs, pour organiser des conférences, oui, pour citer son exemple et propager la bonne parole. Gabriel Garcam a été photographié le jour même de sa guérison. Il a été photographié l'année suivante. Il n'est pas le même homme. Sur le premier document, il fait penser à quelques rescapés d'un camp de concentration. Mais sur le second cliché, c'est un homme qui est merveilleux, solide, rayonnant de force et de santé. Non, il va être attaqué, traité de fumiste et de simulateur, littéralement traîné dans la boue par certains médecins ou certains auteurs. Mon Dieu! Il fera toujours front avec sérénité à toutes ces attaques. Il affiche d'ailleurs son bon sourire et il déclare que m'importe, oui, que m'importe leurs attaques. Ce que Dieu m'a rendu, je le garde en moi depuis un demi-siècle. Plus que ma guérison corporelle, je le remercie d'avoir retrouvé la foi et la charité. Voyez-vous ce que saint Augustin disait tout à l'heure? Ce qui importe chez la Vierge, c'est pas d'avoir porté Jésus, surtout. C'est surtout qu'elle a été son disciple. Elle a eu la foi. Elle a eu la charité. L'amour pour son Fils. Et ainsi, lui, il dit, « Plus que ma guérison corporelle, je le remercie d'avoir retrouvé la foi et la charité. » Et Gabriel Garcam est mort le 24 février 1953, à l'âge de 81 ans, sans s'être jamais ressenti de ses blessures passées, sans avoir non plus jamais reçu la riposte de ceux qui se sont acharnés à le salir. Ses ennemis acharnés des miracles Une autre miraculée devait bientôt les affronter. Voici le deuxième miracle. Car à la grotte, les guérisons inexplicables ne cessent de se produire à Lourdes. Le docteur Boissary en enregistre parfois une centaine chaque année. Et les dossiers sont transmis à l'autorité ecclésiastique. Mais l'épiscopat n'en retient qu'un bien petit nombre parce que les évêques sont très, très, très sévères. Et parmi ceux-ci, parmi ces miracles, celui d'Henriette Hauton, H-A-U-T-O-N, mérite d'être noté. Mademoiselle Henriette Hauton est née à Lisieux, oui, à Lisieux, en 1888. C'est une gamine frêle, un peu maladive, qui dès l'âge de 10 ans donne des signes de la mauvaise maladie, c'est-à-dire de la tuberculose. C'est comme ça qu'on appelait ça dans le temps. Aujourd'hui, c'est le sida qu'on appelle la mauvaise maladie. Et son père tient une petite auberge. Il se désespère de voir que sa fille refuse toute nourriture. L'enfant souffre de vomissements, de diarrhées, d'hémorragies gastriques et intestinales. Elle dépérit d'année en année, puis à 20 ans, elle offre le spectacle d'un vrai squelette ambulant, que l'on dirait comme du parchemin. Vous voyez, le genre, hein? Jaune. Et les médecins qui la soignent, sans grand espoir d'ailleurs, ne la maintiennent en vie depuis 5 ans que par du sérum, oui, puis des lavements nutritifs. Et fait à peine croyable, mais pourtant authentifié par les certificats médicaux en 1908, elle ne pèse que, écoutez bien ça, 17 kilos. Disons 35-40 livres. Elle n'a pas quitté le lit depuis 5 ans et son état cachexique. Est-elle, Henriette, désireuse de se rendre à Lourdes pour implorer la miséricorde de la Vierge, se heurte au refus catégorique des organisateurs du pèlerinage national, les organisateurs eux-mêmes, qui sont souvent des prêtres, du pèlerinage national, puis du pèlerinage de Lisieux aussi, ils veulent pas, ils ont trop peur de la voir mourir dans le train et ne veulent pas prendre une pareille responsabilité. Et Henriette Hauton ne désarme pas pour autant. Et enfin, c'est le pèlerinage de Bayeux, celui-là, qui l'accepte. Bayeux, c'est dans le nord. Il y a une très belle, grande tapisserie à voir, hein. Et le 8 septembre 1908, le 8 septembre, la Nativité de la Vierge, elle arrive à Lourdes, dans un état plus que désespéré. Sa mère l'a heureusement accompagnée, c'est elle qui la transporte littéralement dans ses bras, jusque dans ces lieux merveilleux. Et là, les pèlerins s'émeuvent devant ce masque décharné, grimaçant, a-t-on témoigné. Pourquoi demander la guérison d'une vieille de 80 ans? On lui donne 80 ans, or elle n'en a que 20. Et le jour même de son arrivée, malgré les vives protestations de sa mère, Henriette Hauton obtient des brancardiers qu'elle soit baignée dans la piscine. Vous savez, les piscines, c'est des piscines, l'eau est pas très profonde, puis deux brancardiers se tiennent de chaque côté, là, puis saussent, c'est le cas de le dire, le corps de ces pauvres malades dans l'eau, j'ai vu ça, et cette eau est froide, hein? Bouf! Et sous le contact glacé, justement, de l'eau, elle se sent mieux. Et ceux qui l'entourent pensent que c'est le mieux de la fin, que c'est un sursaut, quoi. Et le lendemain, un nouveau bain. Lorsque quelques heures plus tard, le Saint-Sacrement, écoutez bien ceux qui ne croient pas à la présence réelle, le Saint-Sacrement, ça c'est une hostie consacrée qui est placée dans ce qu'on appelle un ostensoir. J'explique pour ceux qui connaissent pas ça. C'est comme un grand soleil avec sur pied. Et dans le centre du soleil, il y a deux petites vitres et à l'intérieur des deux petites vitres, on met une hostie consacrée. Le corps vivant du Christ, selon nous, qui y croyons. Alors le Saint-Sacrement passe devant elle, porté par l'évêque d'Évreux, et Henriette s'agite sur son brancard. Elle se lève et se déclare guérie. Et les docteurs du bureau médical qui l'avaient ausculté et diagnostiqué, il avait vu une tuberculose presque généralisée, ils refusent tout d'abord de croire à sa guérison. Ils demandent quelques jours de réflexion avant de se prononcer. Mais le seul fait de voir ce squelette dépourvu pratiquement de muscles entrés sans être soutenus dans le bureau, les a profondément bouleversés. Le docteur Boissary, alors président du bureau, pourtant connu pour son extrême prudence, très sévère, il n'hésite pas à déclarer, bien, c'est une véritable résurrection, je dois l'admettre. Et 3 semaines plus tard, comme nous le montre une photographie prise chez elle dans son jardin, bien, Henriette Hauton est en parfaite santé. Elle sourit. Elle pèse déjà 62 livres au lieu de 35. 3 mois plus tard, elle dépasse les 50 kilos, poids qu'elle n'avait jamais atteint depuis sa naissance. Et cette résurrection, encore une autre résurrection, pour reprendre le terme du docteur Boissary, est tellement incroyable que certains journalistes d'une mauvaise foi, encore ceux-là, particulièrement insolents, n'hésiteront pas a publié « Oh, ce n'est pas celle qu'on nous montre aujourd'hui qui est partie voici 3 mois à Lourdes. Henriette Auton est morte à Lourdes. On l'y a enterrée en secret et sa mère, payée par les curés, en a ramené une autre. » C'est brillant, hein? Henriette Auton, dès son retour, n'aura de cesse que lorsque son père, enfin converti par sa guérison, fera sa première communion. Puis elle se remettra courageusement ses études interrompues définitivement 8 années plus tôt par la maladie. Et elle passera son brevet et va devenir institutrice, employée de banque. Et aux dernières nouvelles, d'après les écrits que j'ai devant moi, elle s'occupait encore, à près de 70 ans, des œuvres paroissiales de Ries en Seine-Maritime. Elle est évidemment morte depuis. Et les adversaires sérieux de Lourdes vont objecter, sans doute, que l'on ne possède qu'une vague indication de l'origine tuberculeuse d'Henriette Auton. Bien qu'il semble que cette objection ne résiste pas à un examen approfondi du dossier Auton, et que la tuberculose avait réellement existé, qu'est-ce qu'on peut répondre dans le cas d'une autre femme, Émilie Cailleux? Le doute n'était rigoureusement pas possible et que sa guérison n'en est pas moins discutable. Et je vous raconterai tout à l'heure le cas d'Émilie Cailleux. Oui, j'ai décidé de vous raconter une troisième miracle. C'est trop fascinant. Émilie Cailleux, C-A-I-2-L-E-U-X. C'est toujours pour célébrer la fête de la présentation de Marie aujourd'hui, hein. Émilie Cailleux a été suivie pendant des années, avant et après sa guérison, par de très grands spécialistes. On possède, outre des certificats d'analyse de crachats faits à la riboissière, on possède des radiographies postérieures à sa guérison. Bon, j'explique. Émilie Cailleux est née à Paris en 1894. Sa mère et son frère ont succombé à la tuberculose. Son enfance à Émilie a été marquée par des maladies fréquentes, et en particulier par une bronchite chronique, qui n'est autre qu'une tuberculose pulmonaire, ainsi que le vérifient les médecins de Villepinte, où elle est admise en 1919. Sa fiche d'admission à Villepinte, établie par le docteur Lefebvre, en date du 28 mai 1919, donc, précise que l'on a trouvé en abondance dans ses expectorations les bacilles de Koch. La maladie est en pleine évolution. La courbe de poids ne cesse de descendre. Bon, le 23 juin, donc moins d'un mois plus tard, Émilie Cailleux ne pèse plus que 33 kilos, contre les 47 qu'elle accusait lors de son admission. Donc en moins d'un mois, elle en a perdu beaucoup, hein? Perdu 14 kilos. Pendant une année, elle végète, elle glisse lentement vers la mort. Au mois de septembre 1920, donc l'année suivante, elle est admise à l'hôpital Lariboissière, où son état est jugé désespéré, puis en conséquence, elle est dirigée sur l'hôpital Saint-Louis. En effet, la tuberculose a maintenant gagné la colonne vertébrale, et cette fois, on a diagnostiqué le mal de Pott. Le professeur Le Sen, lors de la visite, déclare aux internes, « Il est inutile de la radiographier. Ce qu'elle a est bien visible. Mettez-la dans le plâtre. » C'est le même professeur qui, 6 mois plus tard, s'opposant à ce que sa malade soit amenée à Lourdes, va s'écrier, « Émilie Cailleux n'est pas une personne pour Lourdes, ce n'est pas une malade nerveuse. » Il y a là une part de moquerie, hein? Et en juillet 1921, en effet, Émilie a demandé à participer au pèlerinage national. Son état s'est considérablement aggravé. À l'hôpital Saint-Louis, elle a des douleurs abdominales et des troubles sphinctériens qui ont fait d'elle une espèce d'épave humaine. Dans sa prison de plâtre qui l'enserre, elle se sent mourir lentement et malgré l'avis défavorable des médecins, la pauvre, ben, elle s'entête. Elle a de l'énergie. Elle veut aller à Lourdes. Et elle va faire tout en son pouvoir pour parvenir à Lourdes, à son but. Et un homme a entendu son appel. C'est un homme qui, précisément, mène une petite enquête sur le problème de Lourdes. Il a décidé, pour se faire une opinion valable, de détecter les futurs miraculés en rendant systématiquement visite à tous les pèlerins en partance pour Lourdes avant leur déplacement. Cet homme, c'est un médecin. Il se nomme Docteur Goret. Il est ancien interne des hôpitaux de Paris. L'année précédente, en 1920, il a rendu visite à Paris à une quinzaine de grands malades avant leur pèlerinage, puis il les a ensuite accompagnés à Lourdes, surveillés pendant leur visite à la grotte. Mais il n'a enregistré aucune amélioration, aucune guérison, aucun miracle. Alors avant de conclure qu'il ne se passe rien à Lourdes, le docteur Goret décide de renouveler son expérience en 1921. Et avant le départ du pèlerinage, bien, il visite 35 grands malades, les ausculte. Il s'entoure de toutes les garanties médicales, puis collectionne les attestations. Et parmi ces 35 malades se trouve notre chère Émilie Cailleux. Alors là, le 18 août, Émilie Cailleux arrive à Lourdes. Elle a supporté le voyage, soutenue par son immense foi. Elle surprend ses compagnons de voyage par son moral et son courage. Le lendemain, elle se fait transporter à la grotte sur son brancard. Là, des centaines de témoins peuvent la voir joindre les mains. Elle récite quelques prières. Puis elle se lève. Elle marche seule vers le bureau des constatations, où elle demande au médecin, pour constater sa guérison, de lui enlever son plâtre. Parmi ces médecins se trouve précisément le docteur Goret, dont je viens de vous parler, arrivé également de Paris la veille. Il sourit, il est incrédule. Mais il s'oppose pas à ce que l'on accède au désir de celle qu'il sait maintenant atteint d'un mal de pote, particulièrement douloureux et en pleine évolution. Et lorsque le plâtre de la jeune fille est ôté, elle demande à être auscultée, déclarant que les douleurs ont disparu et qu'elle a retrouvé la souplesse de son dos. Alors, sceptique, évidemment, les médecins enregistrent ces déclarations et lui demandent de bien vouloir subir un examen médical complet. Or, à la stupéfaction des praticiens, l'analyse des expectorations ne permet plus de découvrir le moindre bacille tuberculeux. Les réflexes et le pouls sont redevenus normaux et la bosse dorsale, qui était très douloureuse, se résorbe entre le second et le quatrième jour consécutif à la visite de la grotte. Et là, le 15 septembre 1921, Émilie Cailleux passe à la radiographie. Celle-ci ne fait apparaître que des reliquats légers, complexes, de lésions pulmonaires et vertébrales, dit le document. Cliniquement, Émilie Cailleux est guérie, mais le docteur Goret, que le hasard semble avoir choisi pour littéralement mettre le doigt sur un miracle, se refuse encore, lui, à admettre la vérité. Il est exigeant. Pendant des mois et des mois, il va suivre médicalement cette jeune miraculée de Paris. Mais, à la longue, il ne constate aucune rechute. Il constate qu'Émilie Cailleux est bel et bien guérie, qu'elle a été délivrée de ses souffrances en l'espace de quelques secondes, alors que la médecine s'avoue vaincue. Et le docteur Goret n'hésite pas à publier sur son expérience une thèse médicale qui a fait sensation, intitulée « Une observation médicale presque en forme d'expérience ». C'était publié aux éditions Bonne Presse en 1922. Puis, il va en tirer une plus haute conclusion en entrant chez les religieux de l'Assomption, imaginez. Il quitte le monde, il rentre chez les religieux de l'Assomption, c'est une communauté très intéressante, ça. Et il devient un des membres mainteneurs du pèlerinage national de Lourdes. Est-ce qu'on peut décemment, dans le cas d'Émilie Cailleux, parler d'une maladie nerveuse, d'hystérie, puis de simulation? Qu'en dites-vous? Comprenez-vous? Dans un petit livre qui vient de paraître chez Nouvelle Cité, Prier 15 jours avec Thérèse de Lisieux. C'est tout nouveau. Je lis, en rapport avec Thérèse de Lisieux, notre sainteté ne se fera pas sans nous. Rude est le chemin de sainteté. C'est que la sainteté ne consiste pas à dire de belles choses, ne consiste pas à les penser, à les sentir. Elle consiste à souffrir et à souffrir de tout, c'est Thérèse de Lisieux. Or, l'auteur ici dit, elle impose des choix parmi des choses fort légitimes. Choisir le meilleur sera peut-être faire choix de ce qui spontanément ne nous attire guère, même dans les petites choses. Dieu n'est pas sadique au point de faire de la route de sainteté une voie de souffrance. N'oubliez pas ça. Hein? C'est de notre côté que cela se situe, dans le choix à réaliser. Et c'est ce qui arrive souvent à Lourdes. Tous ces gens qui sont pas guéris choisissent d'aimer au creux de leur souffrance. Et c'est ce qui les transforme. Thérèse de Lisieux écrit, toujours dans ce petit livre que j'ai devant moi, qui s'appelle « Prier 15 jours avec Thérèse de Lisieux chez Nouvelle Cité », j'ai compris que pour devenir une sainte, il fallait beaucoup souffrir, rechercher le plus parfait et s'oublier soi-même. En somme, fuir la médiocrité, rejeter la tiédeur. Ne pas se faire le centre de tout. N'est-ce point souffrance sur notre route? Il se peut aussi que vienne la souffrance corporelle, puis aussi la nuit de la foi. Et elle dit, elle, Thérèse Lisieux, « J'ai compris ». En somme, ce qu'elle veut dire, « Je fais mienne cette dimension de la sainteté à vivre dans la petitesse ». Et si notre sainteté ne s'accomplit pas sans nous, elle n'est cependant pas, en premier, notre œuvre. Que seraient mes faibles efforts face à une tâche pareille? Et c'est ce qui faisait écrire à Thérèse de Lisieux, « C'est lui seul Jésus qui m'élèvera jusqu'à lui, et me couvrant de ses mérites infinis me fera sainte. Tous les désirs de sainteté répandus en mon être, oui, tu les prends, Seigneur, en ton unique offrande, pour qu'ils se réalisent en moi. Alors garde-moi, oui, Seigneur, garde-moi, comme une humble offrande d'amour pour toi, une humble offrande d'amour. Consume-moi dans le feu de ton amour. Et avec Marie, les anges et les saints du ciel, j'aspire à chanter ta gloire, ô bienheureuse Trinité. »